On nous dit, le bonheur c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là on va la gagner.
Ouais, faut arrêter de se faire exploiter là.
Ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
Dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midi, les parents sont rentrés.
Bonsoir. Vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, et c'est le Canu Info du lundi 19 avril 2021.
Et tout de suite les titres, on commencera à l'international avec les élections en Équateur et au Pérou. Et encore, on parlera encore des élections au Tchad cette fois-ci, pour parler évidemment de l'impérialisme français. À Berlin, on parlera de la mobilisation pour l'encadrement des loyers. Pour finir, aux États-Unis, où il y a eu un nouveau meurtre policier.
On passera ensuite au national, avec d'abord un sujet sur la loi sécurité globale qui a définitivement été adoptée par l'Assemblée nationale. On fera ensuite un point sur la répression policière qui a eu lieu à Nanterre suite à la mort d'un jeune de 21 ans. Et enfin, on parlera de la campagne Le Soulèvement des Terres pour faire un petit point sur la semaine dernière.
Et puis au local ?
Eh bien au local, on finira donc sur un sujet sur le ministère de l'Intérieur et le comité de Lyon contre les violences policières. Et nous terminerons par une interview.
Sur l'organisation d'un rassemblement samedi, en l'occasion de la journée des fiertés lesbiennes.
Mais tout de suite, on commence par les brèves.
Et oui, et donc on commence les brèves en France, où apparemment, on commence 2021 avec un interne en médecine qui se suicide tous les 18 jours. C'est l'intersyndicale des internes qui en parle et qui dénonce la situation de l'hôpital, aggravée certes par la crise sanitaire, mais qui subit surtout de nombreuses réformes successives qui n'ont fait que supprimer des moyens. Le temps de travail légal d'un interne est de 48 heures par semaine. En 2019, l'intersyndicale avait enquêté et trouvé qu'en moyenne, ils en effectuaient plutôt 10 de plus. Et en ce moment, on attendrait jusqu'à 80 heures. Impossible donc à ce niveau de nier qu'il y a un manque de moyens et qu'il faut donner à l'hôpital de quoi recruter pour faire respecter les temps de travail. En Chine maintenant, où contrairement aux bonnes nouvelles qu'on a eues récemment en Europe, les livreurs ubérisés sont loin de voir leurs conditions de travail s'améliorer. Dans le secteur, les deux leaders en Chine, à savoir Meituan et une filiale du groupe Alibaba, se sont accordés sur une baisse des paiements des livreurs par livraison. Et il est courant que ces derniers reçoivent des amendes retirées de leur paye pour des livraisons trop longues, et les poussant donc évidemment à prendre des risques. Et pourtant, la situation économique des livreurs les pousse à continuer à travailler. Leurs manifestations ont diminué de moitié entre 2019 et 2020. Et surtout, alors Chen Guojian, livreur militant, a disparu pendant un mois avant qu'on apprenne qu'il avait été arrêté pour avoir cherché à provoquer des conflits et troubler l'ordre public. Ce qui est malheureusement monnaie courante de la part du gouvernement chinois quand des mouvements se font trop visibles. Et donc le crime de Chen Guojian est d'avoir trop parlé sur TikTok et WeChat des conditions de travail des livreurs chinois. Et surtout, il est victime du fait que ses vidéos avaient des dizaines de milliers de vues. Et puis pour rester dans les faux pays communistes, à Cuba, maintenant, Raúl Castro a passé le siège de premier secrétaire, plus haut poste de pouvoir à Cuba, à Miguel Díaz-Canel. Pas sûr que cela change grand-chose pour Cuba, que ce soit l'actuel président qui devienne premier secrétaire, mais cela faisait quand même plus de 59 pardon, que Cuba était dirigé par un Castro. Et pour finir, une petite info qui nous vient des États-Unis, mais qui parle de la France, puisque Elissa Slotkin, une élue de la Chambre des représentants américaine, a demandé au secrétaire d'État de placer un tas de groupes dits extrémistes européens sur la liste des organisations terroristes. Et parmi eux, il y a Génération Identitaire.
Youpi.
Et tout de suite, on passe au...
International.
Toujours aussi bien ce petit jingle. Et donc à l'international, on commence par un sujet sur la nouvelle élection, si on peut l'appeler comme telle, au Tchad. Ah non, je crois que je me trompe dans le conduit.
Oui, on commence en fait par les élections en Équateur et au Pérou.
On fait un petit tour d'abord en Amérique latine. Et oui, deux pays d'Amérique latine ont connu des élections présidentielles la semaine dernière. Là où on s'attendait à une victoire de la gauche en Équateur, c'est la droite qui a gagné. Et au Pérou, c'est l'inverse. La victoire de la gauche au premier tour est une surprise. En Équateur d'abord, la gauche est mise en échec par la victoire du banquier libéral Guillermo Lasso, qui remporte le deuxième tour avec plus de 52% des voix, contre 47%, c'était juste, 47% pour Andreas Arauz, qui est l'héritier politique de Rafael Correa. Au Pérou, c'est Pedro Castillo, enseignant et syndicaliste, qui arrive en tête du premier tour des présidentielles, avec 18% des voix, devant la triade des candidats de l'ultra-droite, ultra-droite qui recouvre aussi bien le clan traditionnel fujimoriste que l'extrême droite décomplexée et raciste Rafael López. Castillo, donc, lui, s'est fait connaître en 2017, lorsqu'il a pris la tête de la grève nationale des enseignants pour réclamer des augmentations de salaire, et il représente aujourd'hui le parti progressiste Pérou Libre. Mais revenons d'abord en Équateur. Il s'agit bien d'une défaite sans appel pour le coréisme et sa révolution citoyenne tant attendue. En effet, la victoire de la droite néolibérale met un terme à la poursuite de l'héritage progressiste de l'ancien président Rafael Correa, qui a dirigé le pays entre 2007 et 2017, pendant 10 ans. Donc pour rappel, son mandat a illustré les impasses de ce qu'on a appelé le progressisme comme alternative au capitalisme. Le mandat de Correa, en effet, sous couvert de tournant post-libéral, était marqué par une intensification des exploitations minières et pétrolières qui a fait la part belle à l'extractivisme censé financer une politique de redistribution des richesses qui a un petit peu fonctionné au début mais plus du tout à la fin. Ce choix de l'extractivisme a opposé Correa à son ancien allié, la CONE, c'est-à-dire la Confédération des Nationalités Indigènes de l'Équateur, qui est une confédération anticapitaliste et anti-extractiviste qui a entre, donc il y a une rupture entre ces deux alliés. Rupture donc entre le progressisme et surtout les mouvements sociaux en général qui ont été par la suite violemment réprimés par le gouvernement. D'autre part, la centralisation du pouvoir, l'autoritarisme personnifié, le poids des élites entrepreneuriales et le choix de financer donc une redistribution sociale grâce aux rentes issues de l'exportation des matières premières, sur les marchés internationaux en particulier, tout ça a agrandi le fossé entre d'un côté la gauche qu'on a appelée développementiste et la gauche de l'autre côté indigéniste. Mais de toute évidence, la politique progressiste de Correa n'a pas permis de transformation structurelle de la société équatorienne et surtout pas de la transformation des rapports de classe qui la traversent. L'élection donc la semaine dernière du banquier Lasso, donc la victoire de la droite, vient prolonger le retournement libéral opéré par le précédent président qui s'appelait Moreno, dont les années au pouvoir, qui lui ont débuté en 2017, donc juste après Correa. Donc les années de Moreno se sont distinguées par la mauvaise gestion de la crise économique et sanitaire et un accroissement des inégalités. Visiblement, la pandémie a accéléré et aggravé la détérioration déjà en cours de la situation sociale en Équateur, où la population vit sous le seuil de pauvreté est passée entre 2015 et 2020 de 22 à 32%. D'un point de vue économique, le surendettement du pays a atteint les 65% du PIB, ce qui a poussé le gouvernement à négocier un prêt auprès de notre cher FMI, qui a imposé des conditions d'austérité drastiques qui sont à l'origine directe du soulèvement populaire d'octobre 2019 dont on avait parlé ici, au sein duquel le mouvement indigène avait joué un rôle central. Faisons maintenant le parallèle avec ce qui s'est passé au Pérou. Au Pérou, c'est la victoire de Castillo au premier tour qui annonce un réformisme de gauche qui fait suite à une décomposition politique des formations de la droite traditionnelle qui représentait depuis des années les intérêts de la bourgeoisie péruvienne. Et en effet, le Pérou est englué dans un cycle d'instabilité politique profond depuis des années, crise qui est liée à la crise plus générale du régime constitutionnel qui est issue donc de la dictature fujimoriste des années 90. Pour rappel, Alberto Fujimori a dirigé le Pérou entre 1990 et 2000 et il est connu pour avoir mis sur pied un régime ultra-autoritaire, corrompu et clientéliste qui s'est distingué entre autres par une guerre anticommuniste acharnée et une politique de contrôle de naissance par stérilisation forcée. La gauche donc que représente Castillo en ce moment n'est pas très radicale. Elle s'inscrit pleinement dans un programme de développement économique qui s'appuie lui-même sur un changement de la constitution de 1993 sans pour autant remettre en cause les institutions héritées de 93 qui ont été donc imposées par le dictateur et l'ancien président Fujimori. Si Castillo annonce une vague de nationalisation d'entreprises dans divers secteurs économiques tels que les mines ou le pétrole, sa politique n'excédera jamais les lignes idéologiques de son parti, le Pérou Libre. Il s'agit d'une organisation initialement stalinienne avec une base marxiste-léniniste, mais qui concrètement revendique un programme économique fondé sur le développement et centré sur une économie, ce qu'il appelle une économie populaire de marché, dans laquelle les secteurs économiques stratégiques seraient nationalisés, mais contre indemnisation de leurs propriétaires. C'est sympa. Les principales promesses électorales de Castillo, par exemple, tournent autour de la convocation d'une assemblée populaire constituante et d'un plan d'investissement public dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Ça, c'est la phase positive, mais d'autres aspects beaucoup plus conservateurs font également partie de son programme, par exemple qu'il s'agisse de son opposition au mariage homosexuel ou à la dépénalisation de l'avortement, qu'il s'agisse des mesures anti-immigration qu'il veut mettre en place, ou encore d'une politique carcérale renforcée. Tout ça, dans les discours de Castillo, ne font pas toujours rêver, loin de là. Bref, avec ces deux élections, l'éventualité d'une rupture post-néolibérale dans le pays andin est rendue beaucoup plus problématique. Après le retour du parti de Morales et du MAS en Bolivie en 2020, avec la prochaine mise en place d'une assemblée constitutionnelle au Chili, l'hypothèse d'un nouveau tournant politique en Amérique latine semblait être à l'ordre du jour. Mais il en faudrait quand même plus qu'une victoire de la droite et une de la gauche au premier tour pour faire pencher la balance.
Et donc maintenant, les élections au Tchad.
Les fameuses. Alors, il y a effectivement des nouvelles élections, mettez-y quand même plein de guillemets, présidentielles. Au Tchad, c'était le 11 avril, il y a une semaine. Donc, les résultats sont un peu longs à arriver, mais figurez-vous que les premières tendances qui datent d'avant-hier donnent la victoire à un petit nouveau Idriss Déby. Ah mais, c'est un truc de fou ce qu'on se marre dans cette émission. Alors, Idriss Déby... c'est pas un petit nouveau, évidemment. Il brigue ici un sixième mandat. C'est le président dictateur, et pas un petit dictateur, hein, depuis 1990, suite à un coup d'État soutenu par l'armée française et les services secrets français, bien sûr. À cette époque, alors c'était Hissen Habré qui était au pouvoir depuis 1982, suite à un coup d'État, lui aussi soutenu par l'armée française. Et son dauphin de l'époque, c'était un certain Idriss Déby. Mais comme bien souvent lorsque les intérêts de la France sont menacés, et c'est le cas à la fin des années 80, l'armée française et les services secrets français interviennent en faveur de dissidents militaires, en l'occurrence Idriss Déby, pour changer le pouvoir par la force et maintenir les intérêts économiques de l'État et des multinationales français. C'est ce qu'on appelle l'impérialisme, et là en l'occurrence la France-Afrique, mais vous connaissez déjà. Ah oui, on vous en a parlé il y a 15 jours. C'était plus lié au Mali. L'armée française est présente de manière permanente au Tchad depuis 1986. C'était l'opération Épervier, et c'est un certain François Mitterrand qui l'a mise en place. Et depuis, elle a été prolongée, cette opération Épervier, en 2014, et c'est l'opération Barkhane. C'était un certain François Hollande, merci les socialistes. Alors, au Tchad, il y a énormément de pétrole, découvert en 1969, mais produit principalement à destination des États-Unis et de la France, mais aussi dernièrement de la Chine. Depuis 2003, il y a à peu près 200 000 barils par jour qui partent du Tchad pour les beaux yeux des Occidentaux et un petit peu de la Chine. Il y a également une grosse production agricole, notamment de coton, à destination de ces pays voisins, mais aussi, pour beaucoup, en Europe. Ce pays, donc, avec à sa tête Idriss Déby, s'est mangé des grosses, grosses salves de privatisation à la fin des années 90 et au début des années 2000. Conséquence immédiate des prêts du FMI et de la Banque mondiale. Idriss Déby, avec le clan Bongo au Gabon, c'est le monsieur France-Afrique, côté africain, préféré de l'État français, quel que soit d'ailleurs le chef de l'État français ou le gouvernement. Il a été réélu au premier entre le premier tour entre pardon je reprends il a été réélu au premier tour entre 2001 et 2016 puisqu'il y a eu déjà 5 élections présidentielles entre 60% et 89% des suffrages. La France est intervenue militairement pour le soutenir contre des bandes rebelles au moins en 2005, en 2008 et très récemment en 2019. Donc Macron a fait intervenir l'armée française en 2019 pour soutenir Idriss Déby. Pas question de le lâcher pour cette élection. On rappelle quand même que les élections au Tchad sont systématiquement truquées, que la répression est permanente, avec des emprisonnements, des assassinats politiques, de la torture, des crimes contre l'humanité, des tirs à balles réelles contre les manifestants. Et la France continuera et continue bien sûr de soutenir cette dictature. Ces derniers jours, 300 membres d'un groupe rebelle qui menait une incursion dans le nord du pays ont été tués par l'armée tchadienne. Ce groupe rebelle, c'est le Front pour l'Alternance et la Concorde au Tchad. Ils avaient lancé une offensive depuis des bases arrières libyennes contre la supercherie électorale et la réélection assurée d'Idriss Déby. Dans le nord-est du pays, d'autres groupes rebelles s'organisent contre la dictature sanguinaire d'Idriss Déby. Mais soyons-en sûrs, comme à plusieurs reprises, si le pouvoir du bon élève de la France-Afrique, du FMI et de la Banque mondiale est menacée, eh bien l'armée française, présente depuis 86 donc dans le pays, interviendra pour garder son monopole sur les ressources naturelles, pendant que le clan Déby, lui et ses alliés, détournent massivement l'argent issu de la manne pétrolière et que le peuple tchadien crève la dalle. On rappelle quand même que le Tchad, c'est l'un des pays où la population est la plus pauvre au monde et se classe, selon les classements de l'IDH, l'indice de développement humain, 187e pays sur 189 à l'échelle mondiale. Voilà ce que soutient la France.
Et tout de suite, une petite transition musicale avec un groupe de rappeuses qui vient d'Équateur, Las Damas, avec le morceau Soy Hip Hop.
La Damas. Lima, Perú.
El que lo hace se io si me sublevo devo rapargli una sina devo hacemos rima cotante pa' que el que se va de avance caiga en trance y se canse de hacer rap sin contenido todo lo mío en alquiler y sigo rapeando desde ayer como distrae que me consagré y ustedes solo son fucking layers.
Vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, c'est le Canu Info du lundi 19 avril et on coupe un peu en avance cette musique car on est un peu à la bourre. Et on enchaîne à l'international avec un sujet sur la mobilisation pour l'encadrement des loyers à Berlin.
Oui, il y a une manifestation de plusieurs milliers de personnes ce week-end à Berlin contre une décision de la Cour suprême allemande qui a décrété que la mesure d'encadrement des loyers berlinois était anticonstitutionnelle. En fait, ça fait depuis novembre 2020 que les Berlinois avaient vu le montant de leur loyer baisser, conséquence d'une loi sur l'encadrement des loyers qui était entrée en vigueur au début de l'année 2020. Cette loi qui a été impulsée par une large mobilisation des associations de locataires et qui a été votée par le gouvernement Die Linke et Vert du Land de Berlin, a d'abord eu comme effet début 2020 de geler les loyers, donc de calmer un marché qui s'emballait, puisque entre 2011 et 2019, le niveau des loyers avait augmenté de 65% en moyenne à Berlin, dans un phénomène de gentrification qui est bien connu des grandes villes européennes. Après le vote de la loi, les loyers des nouveaux contrats locatifs, du coup, avaient baissé en moyenne de 10%. Et puis, il y avait eu une deuxième étape, donc en novembre 2020, concernant les anciens locataires, avec donc les propriétaires qui étaient obligés de ne pas demander plus que des plafonds qui allaient de environ 4 euros à environ 10 euros du mètre carré en fonction de l'année de construction de l'appartement. Des loyers plafonnés donc, et concrètement ça avait abouti à des baisses de loyers qui pouvaient atteindre plus de 100 euros pour environ 365 000 locataires à Berlin. Malheureusement, les chiens de garde du capital immobilier, à savoir les élus de droite, en l'occurrence la CDU et le FDP, les deux partis de droite allemands. Donc les élus du Land de droite, soutenus par l'extrême droite, l'AFD, Alternative für Deutschland, ont intenté un recours contre cette mesure. Et si on avait besoin d'une explication, on peut noter que selon un rapport officiel sur le financement des partis politiques qui a été réalisé par le Bundestag, donc le Parlement allemand, la CDU, donc le parti de droite qui a fait ce recours en justice, est la formation politique qui a reçu en 2020 le plus de dons des milieux patronaux. Et surprise, parmi ces généreux donateurs, le secteur de l'immobilier figure largement en tête, avec à peu près 1,6 million d'euros de versements. Trois fois plus que l'année précédente, au passage, ils avaient peut-être quelque chose à acheter. La Cour suprême, donc, sur cette mesure d'encadrement des loyers, n'a pas jugé sur le fond et a déclaré la mesure anticonstitutionnelle car le gouvernement du Land aurait outrepassé ses compétences pour faire une loi sur ce sujet, donc l'encadrement des loyers. La Cour suprême allemande considère que la compétence pour ce type de sujet serait exclusivement du ressort fédéral. L'association de locataires berlinois BMW et Die Linke ont engagé une contre-attaque. Et ils vont s'appuyer, donc une contre-attaque politique mais aussi juridique, et ils comptent s'appuyer sur l'absence de grief contre le contenu de la loi pour revendiquer finalement du gouvernement fédéral qu'il mette en place un plafonnement national des loyers. Puisque ce n'est pas la compétence du gouvernement du Land, le gouvernement fédéral n'a qu'à le faire, et puis au niveau de toute l'Allemagne, comme ça ce sera parfait. Pour les Berlinois, qui sont encore à plus de 75% locataires de leur logement, en tout cas en attendant, le verdict de la Cour suprême va avoir un impact terrible, puisqu'il y a 40 000 Berlinois qui vont devoir avoir recours à une aide sociale. Donc, comme Deutsche Wohnen, en plus Deutsche Wohnen, donc le plus gros des propriétaires berlinois qui détient environ 115 000 logements, qui est contrôlé par un fonds d'investissement BlackRock, Deutsche Wohnen et plusieurs autres sociétés immobilières ont fait savoir qu'elles allaient même exiger un versement des augmentations de loyers qui n'avaient pas été perçues, donc sur la période où les loyers ont été réduits. Et ça va mettre pas mal de gens dans la grosse galère financière. Donc les manifestants, qui sont acculés par les grands propriétaires, promettent en tout cas pour l'instant de revenir toujours plus nombreux pour que la loi berlinoise s'applique ou mieux soit transposée à tout le pays.
mis face à cette mobilisation, Die Linke, donc le parti équivalent de LFI, on va dire, a annoncé qu'elle allait faire de cette question du contrôle des loyers à l'échelle nationale l'un des grands thèmes de la campagne, de sa campagne pour l'élection du Bundestag à la fin de septembre prochain, et parle d'obtenir un référendum d'initiative populaire pour l'expropriation de Deutsche Wohnen. De quoi nous inspirer à Lyon et dans les villes françaises en général, et en particulier dans les villes avec des élus s'affichant à gauche, sur les luttes à mener pour pousser nos élus, ou les élus, on va dire, à prendre des mesures pour le droit à un logement digne et décent pour toutes et tous. Et on rappelle par exemple qu'il y a une petite réunion samedi pour s'organiser autour des luttes pour le logement, mais on en reparlera dans l'agenda.
Et on termine à l'international rapidement par un triste nouveau meurtre policier aux États-Unis.
Ouais, la ville de Minneapolis fait une fois de plus la triste actualité. Alors que le procès de Derek Chauvin, l'assassin de George Floyd, est en train de se dérouler, eh bien, la police du quartier de Brooklyn Center a abattu Daunte White, un jeune Afro-Américain de 20 ans, lors d'un contrôle routier. Cet assassinat fait suite à celui d'Adam Toledo, 13 ans, qui vivait à Little Village, à Chicago, un quartier majoritairement latino-américain. Et Adam Toledo, lui, il s'était fait tuer sans aucune raison. Une vidéo, d'ailleurs, avait été rendue publique jeudi dernier, et cette vidéo dément toutes les accusations mensongères des flics et de la justice de Chicago qui avaient cherché à criminaliser le jeune victime dans les jours suivant le drame. Bref, ces meurtres montrent encore une fois à quel point la police aux États-Unis est décomplexée et protégée par un système raciste et répressif. Revenons rapidement à Minneapolis. Le soir même du meurtre, 200 manifestants se sont réunis à Brooklyn Center pour protester contre cet énième crime policier. Et la révolte a vite éclaté. Les manifestants et les manifestantes se sont pris à deux véhicules de flics. Et la police a réprimé direct à coups de LBD et de grenades de désencerclement. La tension est alors montée d'un cran, surtout quand plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés devant le commissariat de la police de Brooklyn Center. Après ces nuits d'émeutes, la policière autrice du tir criminel a démissionné dans le but d'atténuer la révolte qui tend à rendre la situation explosive, mais c'est loin d'être fini. On le répétera jamais assez, désarmons la police ou abolissons-la, et en tout cas, justice pour toutes les victimes de violences policières.
Alors que nous continuons avec le...
National. Et oui, on enchaîne au national avec un sujet sur la loi sécurité globale.
Et ouais, parce que la petite loi LSG, eh bien, elle est passée jeudi à l'Assemblée nationale. Cette loi réclamée par les syndicats fachos de policiers a été adoptée à 75% par les députés. Alors au programme, renforcement des pouvoirs et de l'impunité policière, élargissement des pouvoirs de la police municipale et de la sécurité privée. Alors, en détail, bien sûr, ce sera non exhaustif. On rappelle que cette loi, c'est notamment via son article 24, la provocation à l'identification d'un agent de police nationale dans le cadre d'une opération de police est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. C'est exactement le même objectif qu'à l'origine, empêcher la diffusion des vidéos des violences policières, ce qui vient donc renforcer l'impunité policière déjà quasi systématiquement protégée par la hiérarchie. L'IGPN ou la justice, on en a déjà beaucoup parlé. Autre point conséquent, c'est la généralisation des drones dans les manifestations, dans le maintien de l'ordre. Les images seront transmises directement au service de la police nationale et de la police municipale. Et dans la même logique, des caméras individuelles seront possibles et disposées sur les policiers qui seront également transmises en direct à la police municipale ou à la police nationale. L'article 20 bis, autre article intéressant, ça c'est très clairement pour les quartiers populaires, l'installation de caméras dans les halls d'immeubles. Ouais, ouais, dans les halls d'immeubles, images qui seront transmises en direct à la police municipale. Alors en ce qui concerne la police nationale, puisqu'elle en a aussi un petit peu pour elle, eh bien elle sera autorisée, enfin chaque policiers nationaux sera autorisé au port d'armes de service en dehors de son service, notamment dans des événements publics ou dans des établissements publics. Ça fait quand même un peu flipper que se dire que ces flics pourront se balader avec leurs armes en civil. Autre point conséquent, c'est le pouvoir augmenté pour la police municipale et les membres de sécurité privée qui seront désormais habilités à visionner des images de toutes les vidéosurveillances. Alors en ce qui concerne la sécurité privée, eh bien, elle sera également habilitée à contrôler et faire de la palpation dans tous les cas et à retenir des individus en attendant les forces de l'ordre, ce qu'elle n'avait pas le droit de faire auparavant. En ce qui concerne la police municipale, elle pourra désormais délivrer des amendes forfaitaire de 200 à 1000 euros en ce qui concerne, je vous cite, la consommation de stupéfiants, l'occupation des espaces communs ou les toits des immeubles, les ventes à la sauvette, le traçage d'inscriptions sur les façades, sur la voie publique ou sur le mobilier urbain, entre autres choses. Bon, je vous passe les autres articles, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont absolument terribles. C'est évidemment une nouvelle offensive sécuritaire contre les manifestations, contre les quartiers populaires. Malgré toutes les manifs qu'il y a pu avoir, cette loi sécurité globale est passée tranquillement jeudi à l'Assemblée nationale.
Et puis on va continuer au national pour reparler d'un meurtre policier, mais cette fois à Nanterre.
Oui, dans la nuit de lundi à mardi dernier à Nanterre, un jeune de 21 ans est mort après avoir croisé une voiture de police. Il était en scooter au moment des faits. Les trois seuls témoins qui étaient sur place sont les policiers, qui ont évidemment donné la même version des faits au commissariat, en démentant toute collision avec le jeune et en expliquant qu'il aurait grillé la priorité à droite et serait mort après que sa tête ait heurté le sol. Les habitants de ce quartier populaire se méfient de cette version et on ne peut que les comprendre puisque la police a la sale habitude de déformer les faits, de maquiller des morts préméditées ou pas en mort accidentelle et de faire passer des victimes pour des fautifs. On se souvient par exemple de ce jeune qui avait été accusé de violence contre la police alors que c'est lui-même qui avait été tabassé et tasé à Bobigny, vidéo accablante à l'appui et qui a porté plainte pour dénonciation calomnieuse et faux et usage de faux en écriture publique. Ce que les jeunes de Nanterre ont vu en tout cas en début de semaine dernière, c'est une mort de plus dans laquelle est impliquée la police. Les habitants de Nanterre et du quartier Pablo Picasso sont donc sortis deux nuits de suite dans les rues exprimer leur colère légitime face à ce drame. Et ils ont subi une fois de plus la répression policière. Mercredi, de nombreuses interpellations extrêmement violentes et arbitraires ont eu lieu. Plusieurs jeunes ont été tabassés et dans une vidéo publiée sur le compte Instagram du journaliste Shine Azami, on voit un jeune plaqué au sol par trois policiers, leur criant qu'il n'arrive plus à respirer. Mais les policiers continuent. On écoute tout de suite un petit extrait de cette vidéo.
Ouais.
Si on y arrive.
Oui, si, mais comme il y a un petit changement.
Voilà, donc il crie qu'il n'arrive plus à respirer. Il est tout seul sous trois hommes qui l'écrasent. Et donc il y a un risque réel d'asphyxie qui n'est pas sans lien avec la technique donc du plaquage ventral qui a déjà causé de nombreux morts. On pense par exemple à George Floyd et sans doute aussi à Adama Traoré. Donc on exprime toute notre solidarité avec les habitants de ce quartier populaire qui subissent encore cette semaine une véritable chasse aux jeunes afin d'intimider tous ceux qui souhaiteraient se révolter contre l'impunité policière.
Et on termine au national par un sujet sur le soulèvement des plus loin terres.
Depuis mi-mars, en effet, une campagne rassemblant une centaine de collectifs et d'associations autour de la défense des terres nourricières a commencé sous le nom, très beau, de soulèvement des terres. Luttant donc contre la marchandisation des terres et du vivant, cette campagne entend rassembler des résistances locales et nationales, anciennes et récentes, autour de belles revendications, la fin de l'extractivisme, la réhabilitation des communs, la mise à l'arrêt des exploitations intensives par l'agro-industrie, la défense d'une agroécologie paysanne et solidaire, etc., etc. Plusieurs grandes lignes orientent ainsi les actions menées, comme par exemple la perspective d'extraire des terres du marché foncier, mais aussi l'intention de dénoncer le capitalisme vert ou les pièges citoyennistes tendus par la Convention du climat dont on a déjà parlé. Ces grands axes, dans lesquels peuvent se reconnaître beaucoup d'acteurs et d'actrices, se déclinent en trois volets. Le premier volet consiste à désigner des cibles en partie responsables du désastre écologique Et parmi les cibles, on a en premier lieu l'industrie du béton, des pesticides et des engrais de synthèse. Le deuxième volet, lui, consiste à se réapproprier les terres par toutes les voies possibles, dont les occupations. Enfin, un troisième volet prévoit des occupations de lieux décisionnaires, de lieux de pouvoir, pour désigner aussi des responsables. Samedi dernier, à l'occasion de la troisième vague contre l'intoxication de notre monde, une quarantaine d'actions ont eu lieu dans toute la France. Faisons un rapide tour d'horizon. À Aubervilliers, par exemple, plus de 1000 personnes ont manifesté pour défendre les jardins des vertus contre l'urbanisation du Grand Paris et des JO de 2024. En effet, le jardin des vertus, c'est 4000 mètres carrés de jardins ouvriers qui sont menacés de destruction par quoi ? Par un projet d'aménagement d'une piscine olympique d'entraînement pour les prochains JO en 2024. C'est super. À Grenoble, une vélorution de 500 cyclistes a eu lieu contre l'urbanisation agressive qui se fait avec la complicité de la métropole de Grenoble. À Dijon, c'est le collectif Cri des Terres qui a détourné un immense panneau immobilier pour alerter sur les terres menacées de bétonisation. À Lille, ce sont 250 personnes qui se sont réunies pour un enterrement symbolique du plan climat de la métropole lilloise. Ça, c'est une action qui a eu lieu à l'appel du collectif d'opposition qui s'appelle Alerte à Marquilly et qui lutte contre un projet d'entrepôt logistique géant dans les VEP, un quartier de Lille. Allez, encore deux pour le plaisir. À Besançon, ce sont des dizaines de militants qui se sont retrouvés au VET pour mettre en culture une parcelle menacée, cette fois-ci par la construction d'un éco-quartier. Et à Tella, ce sont 800 manifestants qui se sont rassemblés pour former une chaîne humaine pour réclamer l'abandon du projet d'autoroute qui va relier Castres et Toulouse. Bon. Les prochains rendez-vous, d'ailleurs, aura lieu pas très loin de Lyon. Ça sera en Haute-Loire, les 22 et 23 mai, avec une belle manifestation qui est prévue contre le projet de déviation de la Nationale 88, projet de déviation qui est porté haut et fort par notre cher Laurent Wauquiez. Ensuite, la suite du programme, c'est qu'à partir de fin juin débutera l'acte 4 de la campagne avec une semaine d'action de blocage simultané ciblant les industries de la construction du Grand Paris. Et oui, bientôt, ça sera nous, le Grand Paris.
Et on vous passe un petit son qui s'appelle
Al Koufiyeh.
Merci.
De oui. Shadia Mansour.
C'est une Palestinienne, Shadia Mansour, qui nous propose une chanson de résistance.
Super.
صباح الخير يا ولاد عمومنا فضلوا شرفونا شو بتحب مضيفكم دم عربي ولا دموع من عيوننا بعتقد هيك تأملوا نستقبل من هيك تعقدوا لما تدركموا على غلطتن من هيك لبسنا الكوفي البيضة والسودة صاروا كلاب الزمان يلبسوها كموضة مهما تفننوا فيها مهما غيروا بلونها كوفية عربية بتضل عربية حطتنا بدنا إياه ثقافتنا بدنا إياه كرامتنا بدنا إياه كل شي إلنا بدنا إياه ما رح نسكت لن نسمح لن ليك ليك لا بقلن يسرقوا شغلة مش إلهن ما حصن فيه يلدونا بلتبس لبس هالأرض بتكفيهنش طمعانين عالقدس قدس اعرفوا كيف كونوا بشر وغصب عن أبوهم هاي حطتنا من هيك لبسنا الكوفي لأننا وطني الكوفي كوفي عربي من هيك لبسنا الكوفي هويتنا الأساسية الكوفي كوفي عربي يلا علي الكوفي علولي هالكوفي الكوفي كوفي عربي علوه هلا بلاد الشام كوفي عربي بتطلع عربي ما في بعد مثل الشعب العربي فرجوني أي أمي بالدنيا أكتر مؤثرة الصورة واضحة نحن مهد الحضارة تاريخنا وتراثنا الشاهد على وجودنا من هيك لبست الثوب الفلسطيني من حفا جنين جبل النار إلى رام الله خليني شوف الكوفية البيضة والحمرة خلينا نعليها لفوق بالسما أنا هجاه دية العرب الثاني بخص غزة الثاني بهز هكلي ماتي حرب سجل أنا شادية منصور والحطة هويتي من يوم ما خلقت سيدي والشعب مسؤوليتي لك أنا تربيت بين الغرب وبين الشرق بين لغتين بين بخيل بين فقير شفت الحياة من الشقتين سنة مثل الكوفية كيف ما لبستوني وين ما شلحتوني بضلني عأصولي فلسطينية من هيك لبسنا الكوفية لأنها وطنية الكوفية كوفية عربي من هيك لبسنا الكوفية هويتنا الأساسية الكوفية كوفية عربي يلا
Vous êtes toujours sur Radio Canu, c'est toujours le Canu Info du lundi 19 avril et vous venez d'écouter un son de rap palestinien, Shadia Mansour. Et tout de suite, on enchaîne avec... Attendez, ça va venir.
Avec un super jingle.
Local.
Et voilà.
Et au local, on parle donc du ministère de l'Intérieur et du comité de Lyon contre les violences policières.
Oui, voilà. En fait, on va revenir sur une affaire qui remonte à 2020 et d'abord à février, voire même à décembre 2019, puisque tout commence avec une manifestation contre la réforme des retraites, où Arthur, un passant qui n'avait même pas prévu d'aller à la manifestation, mais décide d'en faire un bout quand elle passe devant lui, se fait tabasser par des policiers, coup de matraque, coup de poing, coup de pied au sol, où il est laissé sans soin. Il finit édenté et avec une fracture de la mâchoire. Quelqu'un qui filmait la scène a même été blessé par un tir de flashball. Bref, une histoire qui pourrait être celle d'autres manifestations, mais le comité de Lyon contre les violences policières s'est intéressé à l'affaire, surtout lorsqu'ils ont reconnu un policier de la BAC dans une manifestation un peu plus tard, le 6 février, comme étant un policier qui avait participé au tabassage d'Arthur en décembre. Cette fois-ci, il est même autorisé à porter un LBD. Le comité contacte alors la préfecture, la DDSP, la direction départementale de la sécurité publique, pour pointer cette présence et la questionner, ainsi qu'informer sur l'absence des matricules obligatoires pour les forces de l'ordre. On en a l'habitude. Les réponses sont évasives, mais surtout, juste après, le comité reçoit pendant 2 mois des centaines de courriers indésirables. Et puis même pendant 4 jours, c'est le portable d'un des membres qui reçoit par dizaines des appels d'entreprises qu'il n'a jamais sollicitées. Après information prise auprès de la direction numérique du gouvernement, les appels font en fait suite à une demande sur plusieurs sites par quelqu'un de rappeler ce numéro. Et ces demandes viennent d'une adresse IP gouvernementale. Le comité avait déposé plainte auprès du procureur de la République de Lyon pour essayer d'avoir plus d'informations et espérer une enquête. Enquête, il y en a finalement eu une, seulement le mois dernier, quelques semaines après l'effacement de certaines données numériques qui n'ont été conservées qu'une année, comme l'oblige apparemment la loi. Et c'est donc bien pratique d'avoir lancé cette enquête que seulement donc plus d'un an après les faits. La seule chose que le comité de Lyon contre les violences policières a donc appris, ce n'est quand même pas rien d'ailleurs, c'est que cette adresse IP gouvernementale vient du ministère de l'Intérieur. Il s'agit donc clairement d'une tentative d'intimidation. Mais pour plus de détails sur le déroulé de l'enquête, ou même plutôt le non-déroulé, je vous invite à lire le communiqué qui a été publié sur Rebellion ce week-end, ou rendez-vous sur le site du comité surveillonsles.art.blog.
Et pour finir, avant l'interview de notre semaine, la citation de la semaine.
Et oui, on écoute cette petite citation de la semaine tout de suite.
La zone internationale n'est pas un lieu de privation de liberté.
La zone internationale n'est pas un lieu de privation de liberté. Mais qu'est-ce qu'une zone internationale ? C'est aussi appelé une zone d'attente. Il y en a 96 en France, 64 dans des aéroports. En fait, c'est des zones où sont, on dit en langage administratif, placées ou maintenues, mais en fait où sont enfermés les étrangers qui ne sont pas admis sur le territoire français, soit parce qu'ils n'ont pas de visa, soit même quand ils ont tous les papiers nécessaires, parce que la police aux frontières juge qu'ils présentent un risque de détournement migratoire, c'est-à-dire qu'ils vont s'installer en France au lieu de rester seulement pour un séjour touristique. Et on écoute quand même l'intégralité de cette citation de la semaine parce que c'est vraiment lunaire.
Normalement, comme vous le savez, un parlementaire peut accéder au lieu de privation de liberté, donc je voudrais visiter les personnes qui sont retenues dans la zone, s'il vous plaît.
Bien là-bas. Quelle zone ? La zone internationale ?
Oui, dans la zone internationale, les 6 personnes qui ne peuvent pas regagner l'Algérie.
Ah ben, c'est pas un lieu de privation de liberté.
Mais alors, pourquoi elles sont retenues si ce n'est pas un lieu de privation de liberté ? Elles peuvent sortir là ?
Ah non, elles peuvent pas sortir.
Donc elles sont retenues.
Ah non, elles sont pas retenues. De toute façon, je viens vous informer officiellement sur instruction du préfet de police, l'accès, votre accès, ainsi que l'accès de l'ensemble des médias, et vous est refusé.
Bon, c'est une violation de la loi, donc je contesterai la décision en tant que parlementaire, et donc ce sera encore une fois devant la justice qu'il faudra aller faire respecter le minimum des libertés en France, c'est bien dommage.
Mais je vous rappelle que la zone internationale n'est pas un lieu de privation de liberté.
On verra ce qu'en décide le juge, moi je pense que ça rentre dans cette catégorie.
Une bonne journée,
merci monsieur l'agent.
Au revoir, non, je ne suis pas monsieur l'agent, je suis capitaine de police.
Monsieur le capitaine.
Officier d'aérogare.
Voilà, on doit cette citation de la semaine à Monsieur X, officier d'aérogare et pas agent de police. Donc c'était un député qui essayait de venir voir 6 Algériens bloqués depuis plus d'un mois en zone d'attente de Roissy à Charles de Gaulle. Mais non, ils ne sont pas privés de liberté, mais si, ils sont enfermés. Bon, on passe au dossier de la semaine.
Voilà, puisqu'on a ce soir 3 invités. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes les organisatrices d'un rassemblement qui a lieu ce samedi. Est-ce que vous voulez bien vous présenter ?
Oui, bonjour. Bah, tout d'abord, merci beaucoup de nous avoir parmi vous ce soir. On est un groupe de lesbiennes et de bi qui militent par ailleurs dans plusieurs collectifs à Lyon. Et on s'est rendu compte récemment que le lesbianisme, c'était aussi une forme d'action politique et qu'il y avait des enjeux très intéressants et qu'il y avait des messages et que, enfin voilà, qu'on pouvait se rassembler et mettre en place des actions.
D'accord. Et alors, donc ce rassemblement samedi, qu'est-ce que c'est exactement ?
Du coup, le rassemblement, il aura lieu à Lyon ce samedi sur la place de la Comédie, qui est juste à côté de l'Opéra. Et en fait, ce rassemblement, on a décidé de l'organiser après l'annonce d'une marche qui aura lieu à Paris dimanche et qui du coup aura lieu du coup juste avant la journée de la visibilité lesbienne, pardon, qui a lieu lundi du coup. Et c'était important pour nous d'organiser quelque chose à Lyon, d'être visible hors de Paris aussi, parce que Lyon, c'est connu comme étant un lieu qui est voilà, le terreau de l'extrême droite et ses actions, notamment de la Manif pour tous.
Et surtout en ce moment.
Surtout en ce moment, oui, tout à fait. Et aussi, c'était important parce qu'aujourd'hui, en pleine période de pandémie, on avait déjà peu de lieux avant pour se rassembler et s'organiser en tant que lesbienne. Et aujourd'hui, on n'en a tout simplement plus. Donc, c'est important d'être visible pour nous dans l'espace public ce samedi.
D'accord.
On s'est aussi rendu compte qu'on est quand même très présente en tant que lesbienne et bi dans les luttes féministes, dans les différents mouvements sociaux. Et là, avec ce rassemblement, on a vraiment eu envie de faire entendre notre voix à nous, spécifique, dans l'espace public, et d'organiser quelque chose vraiment pour nous, pour le coup. Voilà.
Ok, mais justement, qu'est-ce que vous revendiquez spécifiquement ?
Alors, la première de nos revendications, c'est celle qu'on connaît le plus par rapport aux luttes lesbiennes en ce moment en France, c'est la question de la PMA. C'est assez incroyable qu'alors que c'était un des énormes projets dont le gouvernement se paraît un peu, que ce soit toujours pas fait, qu'on n'ait toujours pas la PMA pour les couples de femmes de même sexe, pour les personnes trans. Donc nous, en fait, on demande la PMA pour tous, toutes et tous, sans condition et gratuite. Voilà, c'est un peu la base, mais il faut le demander, hein, puisqu'on ne l'a toujours pas.
On a aussi d'autres revendications plus larges, et on en parle aussi dans notre texte d'appel, mais on se positionne contre l'instrumentalisation des luttes contre les LGBT-phobies à des fins racistes. Et du coup, en tant que lesbienne et bi, on s'inscrit aussi dans les luttes sociales actuelles, et du coup, on est contre la loi sécurité globale, contre la loi séparatisme, voilà.
Et du coup, ce rassemblement samedi, ce sera aussi l'occasion de dire qu'on lutte contre l'hétérosexualité comme système d'oppression.
Alors, le texte d'appel, pour ceux qui voudraient le relire, il a été publié sur Rebellion. Et là, vous parlez un petit peu d'organisation dans le texte. Est-ce que vous avez encore des besoins sur l'organisation ?
Alors oui, s'il y a des personnes qui ont envie de nous aider, notamment au niveau du service d'ordre, c'est encore possible, puisque on cherche encore du monde. Juste pour précision, le service d'ordre, il est du coup en non-mixité sans mixis. Par contre, précision importante, le rassemblement, il est ouvert à toutes et tous. Et les prises de parole sont réservées aux personnes concernées, donc lesbiennes et bi.
Ok.
Oui, et on a aussi une garderie qu'on a mise en place pour ce samedi. Ce sera pareil, au même moment que le rassemblement, de 15h à 17h. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour si jamais vous avez des enfants à faire garder. On a des activités pour les enfants juste à côté du rassemblement.
Et peut-être en dernier lieu, vous les avez peut-être aperçus dans Lyon, on a des très très belles affiches pour le rassemblement de samedi. Et s'il y a des personnes qui souhaitent organiser des sessions de collage encore cette semaine, vous pouvez du coup nous contacter pour avoir le fichier des affiches, et ou éventuellement nous contacter pour avoir des affiches. Et du coup, l'adresse, c'est
L'adresse, c'est lesbienne au pluriel, tiré du bas, contre, tiré du bas, le, tiré du bas, patriarcat, @crans, C-R-A-N comme Nadine, S.org.
Ok, et est-ce qu'on a d'autres moyens d'ailleurs de vous contacter ou de suivre ce que vous faites en dehors de cette adresse mail?
Eh ben, on peut avoir un peu les informations du rassemblement sur un événement qu'on a créé sur Facebook pour atteindre le plus de monde possible. Et du coup, c'est possible de nous poser des questions sur cet événement-là. Voilà. Et il y a aussi l'événement Rébellion.
C'est ça. Mmh. Voilà, et la page de l'événement Rébellion, vous pouvez lire l'appel. S'il n'y a rien d'autre à ajouter, on va passer à l'agenda. Donc on va commencer par rappeler cette date. Donc c'est le rassemblement ce samedi 24 avril sur la place de la Comédie à 15h. Donc il a été intitulé Rassemblement pour la fierté lesbienne.
Et on précise que si vous n'avez pas eu le temps de noter le contact, on le rajoutera sur le site sur le blog des Canu Info du lundi.
Il est aussi sur l'appel de Rébellion.
Très bien.
Et puis, alors, une petite date qu'on peut rappeler aussi qui ne se passe pas à Lyon, mais c'est un rassemblement à Gap, puisque vous savez certainement que régulièrement, il y a des personnes solidaires qui se font arrêter et poursuivre comme passeurs, alors qu'ils récupèrent juste des gens dans la neige, quand il y a de la neige. Et là, il y a deux personnes qui passent le 22 avril à Gap, au tribunal, à midi, pour avoir secouru une famille afghane, donc sur le territoire français.
En ce qui concerne la lutte contre la réforme de l'assurance chômage, il y a une mobilisation nationale ce vendredi 23 avril à l'initiative de la CGT et de tous les lieux culturels occupés à l'échelle nationale. Donc à Lyon, ce sera au départ du TNP à 11h et ça finira à l'Opéra. Et on vous rappelle également qu'il y a des assemblées générales ouvertes à tous et toutes tous les lundis, mercredis et samedis à 12h30 au TNP à Villeurbanne pour continuer à essayer de s'organiser à la fois dans le milieu de la culture, mais évidemment pas uniquement, comme toujours, aussi pour les chômeurs, les chômeuses, les intermittents et intermittentes de l'emploi qui vont prendre très très cher avec cette réforme de l'assurance chômage. Donc il faut venir vendredi si vous pouvez à 11h. Et d'ailleurs, il y a un préavis de grève, donc n'hésitez pas à faire grève. Ce sera légal de ne pas venir au travail.
Et puis aussi, on a parlé un petit peu d'une réunion logement samedi. Est-ce qu'on peut rappeler les infos?
Oui, c'est à 16h30 à la Maison Sans Souci, donc 12 rue Édouard Rocher à Lyon 8e. C'est organisé par la CAL, la coordination d'action pour le logement Lyon et environ, qu'on avait déjà reçu dans cette émission il y a 2 ou 3 semaines, je crois, qui organise donc une réunion publique sur le mal-logement pour venir découvrir la CAL, définir des revendications, organiser les prochaines mobilisations pour un logement digne pour tous et toutes, puisqu'on sait que la fin de la trêve hivernale arrive bientôt, puisqu'elle a été repoussée cette année au 31 mai, si je ne dis pas de bêtises.
Voilà.
On est bien.
Finalement, on est un peu en avance, on va vous laisser.
Et puis on va vous remettre une des petites musiques qu'on a coupées, notamment la musique palestinienne, la musique de rap. Et puis on vous dit à cette semaine dans les mobilisations, et puis à la semaine prochaine en direct sur Radio Canu pour le Canu Info du lundi. Ciao.
صباح الخير يا ولاد عمومنا تفضلوا شرفونا شو بتحب مضيفكم دم عربي ولا دموع من عيوننا بعتقد هيك تأملوا نستقبل من هيك تعقدوا لما تدركموا على غلطة من هيك لبسنا الكوفي البيضة والسودة صاروا كلاب الزمان يلبسوها كموضة مهما تفننوا فيها مهما غيروا بلونها كوفية عربية بتضل عربية حطتنا بدنا إياه ثقافتنا بدنا إياه كرامتنا بدنا إياه كل شي إلنا بدنا إياه ما رح نسكت لن نسمح لن ليك ليك لا بقلن يسرقوا شغلة مش إلهن ما حصن فيه هلدونا بلتبس لبس هالأرض بكفيهنش طمعانين عالقدس قدس اعرفوا كيف كونوا بشر وغصب عن أبوهم هي حطتنا من هيك لبسنا الكوفي لأننا وطنية الكوفي كوفي عربي من هيك لبسنا الكوفي هويتنا الأساسية الكوفي كوفي عربي يلا علي الكوفي علولي هالكوفي الكوفي كوفي عربي علوه هلا بلاد الشام كوفية عربية بتضل عربي ما في بعد مثل الشعب العربي فرجوني أي أمي بالدنيا أكتر مؤثرة الصورة واضحة نحن مهد الحضارة تاريخنا وتراثنا
الفلسطيني من حيفا جنين جبل النار الى رام الله خليني اشوف وفيه البيضه والحمرة خليني نعليها لفوق بالسما انا هجاه ديت العرب الثاني بخص غزب الثاني بهز هكلي ماتي حرب سجل انا شادي يا منصور والحطة هويتي من يوم ما خلقت سيدي والشعب مسؤوليتي لك انا تربيت بين الغرب وبين الشرق بين لغتين بين بخيل بين فقير شفت الحياه من الشقتين انا مثل الكوفيه كيف ما لبستوني وين ما شلحتوني بدلني عاصولي فلسطينيه من هيك لبسنا الكوفيه لانها وطنيه الكوفيه كوفيه عربيه من هيك لبسنا الكوفيه هويتنا الاساسيه الكوفيه كوفيه عربيه يلا علم كوفيه علولي هالكوفيه الكوفيه كوفيه عربيه علوه هلا بلاد الشام كوفيه عربيه بدل
think it's a trend, a fascist